Et comme je vous ai dit la dernière fois, le problème avec David, c'est que son histoire est complètement entremêlée avec celle de Samuel et de Saül, et beaucoup évidemment avec Saül. Donc voilà, vous allez peut-être être étonnés par moments, je vais parler plus de Saül que de David, mais on ne peut pas faire autrement. Son histoire est tellement liée à celle de Saül. Je pensais aujourd'hui vous parler de Goliath. Alors là, je pense que tout le monde connaît l'histoire à fond. Et puis, en relisant ma Bible, je me suis dit non, il y a un petit paragraphe là sur lequel il faut s'attarder un petit peu. Donc Goliath, ce sera pour après Marc Brisebois. À moins que ce soit lui qui prêche sur Goliath, on ne sait jamais, hein, c'est arrivé. Donc, après Master Commission. Ah oui, donc ça fera 15 jours. Essayez de ne pas tout oublier. Mais enfin, je pense que Goliath, ça ne posera pas de problème. Tout le monde connaît. Pour éviter les redites et les explications multiples, je pense qu'on va simplement relire le texte. Donc c'est 1 Samuel 16. Donc on fait un tout petit retour en arrière, mais avec le texte, vous avez tous les renseignements, il n'y a rien de compliqué. L'Éternel dit à Samuel, « Jusqu'à quand porteras-tu le deuil sur Saül ? Moi je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. » Je vous note au passage, il est rejeté pour ne plus régner, mais le bonhomme n'est pas forcément rejeté en lui-même. « Remplis ta corne d'huile et va, je t'envoie chez Isaïe de Bethléem, car, et c'est le verset qui nous a attardé un petit peu la semaine dernière, « J'ai vu un roi pour moi parmi ses fils. » Ou l'autre traduction, « J'ai vu mon roi parmi ses fils. » Samuel dit, « Mais comment irai-je ? Saül l'apprendra et me tuera. » L'Éternel lui dit, « Tu emmèneras avec toi une génisse et tu diras, « Je viens offrir un sacrifice à l'Éternel. » Tu inviteras Isaïe au sacrifice, je te ferai moi-même connaître ce que tu dois faire et tu oindras pour moi celui que je te dirai. » C'est vrai que ça n'aurait pas été la première fois qu'un prophète aurait été tué. Donc, fallait quand même prendre des précautions tout en restant dans la vérité. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit, il se rendit à Bethléem. Les anciens de la ville vinrent en tremblant au-devant de lui. Et ça, on peut comprendre, hein, quand le prophète vient, on se dit « Oulala, qu'est-ce que Dieu a à nous reprocher ?» Ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux ? Il répondit oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous, venez avec moi au sacrifice. Sanctifiez-vous, ça veut dire simplement mettez-vous à part. Hein, ils nettoient leurs vêtements, il y a tout un tas de rites. Et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils. Comme ça, ils sont noyés dans la masse. Et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils arrivèrent, Samuel se dit en voyant Éliab, certainement celui-là est le Messie de l'Éternel. Certainement, il est devant lui. Mais l'Éternel dit à Samuel, ne prends pas garde à son apparence et à sa haute taille, car je l'ai rejeté. Ça ne veut pas dire qu'il est abandonné de Dieu, hein, simplement, ce n'est pas celui que Dieu avait choisi. Mais l'Éternel dit à Samuel, ne prends pas garde à son apparence et à sa haute taille, car je l'ai rejeté. Il ne s'agit pas de ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais Dieu regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Il fit passer Shammah et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Je ne sais pas comment il le savait, mais visiblement il le savait. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel et Samuel dit à chacun d'eux, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, n'y a-t-il plus d'autres jeunes gens ? Alors on ne sait pas trop ce qu'ils pensaient les jeunes, mais beaucoup de commentateurs pensent que l'onction pouvait représenter la succession de Samuel en tant que prophète, ou la succession de Samuel en tant que juge, d'une certaine manière, moins important que le roi, mais un rôle subalterne au roi, on ne sait pas exactement, mais visiblement ils savaient qu'ils devaient être choisis pour quelque chose. Samuel dit à Isaïe, n'y a-t-il plus d'autres jeunes gens ? Il répondit, ah, il reste encore le petit, mais il fait paître le troupeau. Alors Samuel dit à Isaïe, ben va le chercher, car on ne va pas s'installer avant qu'il ne vienne ici. Donc ils étaient prêts à manger la viande du sacrifice, comme c'était la coutume. Isaïe l'envoya chercher. Il était roux avec de beaux yeux, une bonne apparence. Il n'est peut-être pas aussi impressionnant que les autres, mais a quand même une bonne apparence. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, donne-lui l'onction, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile, loignée au milieu de ses frères, et l'Esprit de l'Éternel s'empara de David. C'est important parce qu'on ne parle pas souvent de l'Esprit de Dieu dans l'Ancien Testament, vous avez remarqué, beaucoup moins que dans le Nouveau. Et là, alors j'ai pris cette traduction parce que celle que je préfère, la NBS, parle de souffle. Bon, dans notre vocabulaire chrétien, ce n'est pas toujours évident, même si c'est aussi le sens. L'Esprit de Dieu va s'emparer de David. va descendre sur David. À partir de ce jour et après, c'est important, à partir de ce jour et après. Donc il va arriver ce jour-là et il va rester. Ce n'est pas quelque chose de ponctuel, c'est important de le remarquer. Samuel se leva et s'en alla à Rama. Et là, ce n'est pas un mot en l'air. Il y a un mouvement, un changement. L'Esprit de Dieu vient sur David, Samuel se retire. Et alors que je pensais parler de Goliath, j'étais intriguée par la suite. Verset 14, l'Esprit de l'Éternel s'écarta de Saül. Il y a tout un mouvement là qui est bizarre. Hein, l'Esprit de Dieu vient sur David, Samuel quitte la scène. Ensuite, c'est l'Esprit de l'Éternel s'écarte de Saül, encore un autre mouvement. Et encore un autre, tandis qu'un mauvais esprit venant de l'Éternel le remplissait d'épouvante. Oh, difficile à comprendre, on va travailler là-dessus. Les serviteurs de Saül lui dirent, « Voici qu'un mauvais esprit venant de Dieu t'agite. Que notre Seigneur parle. Tes serviteurs sont à ta disposition. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe. Il en jouera quand un mauvais esprit venant de Dieu sera sur toi et tu iras mieux. » Saül répondit à ses serviteurs, « Trouvez-moi donc un homme qui joue bien et amenez-le-moi. » L'un des jeunes serviteurs prit la parole et dit, « Voici, j'ai vu un fils d'Isaïe de Bethléem qui sait jouer. » Il devait passer du temps à jouer hein, pour que ça se sache. « C'est aussi un vaillant héros, un guerrier. Parlons bien, un bel homme. » Bref, il a toutes les qualités, ce brave homme. « Et l'Éternel est avec lui. » Ouh, ça, c'est pas innocent. « Et l'Éternel est avec lui. » Saül envoya des messagers à Isaïe pour lui dire, « Envoie-moi ton fils David qui est avec le troupeau. » C'est marrant qu'ils insistent là-dessus. Isaïe prit un âne qu'il chargea de pain, d'une outre de vin et d'un chevreau et l'envoya à Saül par l'intermédiaire de son fils David. David arriva, se tint devant Saül qu'il l'aima beaucoup et en fit son porteur d'armes. Saül envoya dire à Isaïe, « Je te prie de me laisser David, car il a obtenu ma faveur. » Lorsque l'esprit venant de Dieu était sur Saül, donc le mauvais, David prenait la harpe et en jouait. Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait mieux. Et le mauvais esprit s'écartait de lui. Alors, il y a une répétition, vous savez, je dis toujours, hein, quand dans un texte vous avez une répétition, ça veut dire quelque chose. Alors d'abord, l'esprit de Dieu qui descend sur David. Eh bien, c'est parce que Dieu donne ce qu'il ordonne, hein, on a coutume de dire ça. Malgré toutes ses qualités personnelles qu'on a passées en revue la semaine dernière, David ne pouvait pas être roi sans l'aide de celui qui l'avait appelé. Pas évident de gouverner un peuple comme ça, qui était en plus tout le temps en guerre, ça n'a guère changé aujourd'hui d'ailleurs, c'est pas évident, hein, si on demandait aux responsables du gouvernement israélien aujourd'hui si c'est facile de présider un pays qui est tout le temps attaqué, tout le temps en guerre, c'est pas facile. Hein. Et donc il avait besoin d'autre chose que de ses qualités humaines. Et Dieu le sait, et l'Esprit de Dieu va venir sur David. Et pour nous, je pense, ça m'a fait penser, il ne faut pas se faire d'illusions. Pour servir Dieu, j'entends servir Dieu dans notre vie quotidienne, on n'a pas besoin d'être Billy Graham ou d'être, voilà. Pour servir Dieu selon le cœur de Dieu, pas selon nos idées à nous, nos meilleurs talents, nos dons naturels, tout ce qu'on a acquis par le travail, le courage et l'expérience, ça ne suffira jamais pour servir Dieu selon son cœur. Si vous avez vu un peu toutes les qualités qu'il avait, ce David, si ça ne suffisait pas pour lui, eh ben, je ne vois pas comment nos talents, nos qualités suffiraient pour servir Dieu. Quand j'entends servir Dieu, c'est au quotidien, au travail, à la maison, à l'école, être vraiment quelqu'un qui se met à la disposition de Dieu pour penser aux autres, pour se décentrer de soi-même, on a vraiment besoin de l'aide de Dieu, surtout à notre époque où tout concourt à nous dire « Tu le vaux bien, occupe-toi de toi, pense à toi, etc. Hein » Et à notre époque, c'est encore plus dur de se décentrer de soi-même pour servir Dieu, penser aux autres. Parce que quand on sert Dieu, c'est aussi en servant les autres. Le plus grand dans le royaume de Dieu, vous vous souvenez ce que Jésus a dit, celui qui sert les autres. D'ailleurs, le monde ne s'y trompe pas. Hein, pourquoi ils font tellement de pubs autour de comment elle s'appelle ça y est, un trou. cette soeur, bonne sœur en Inde, sœur Emmanuel Mère Teresa, voilà. Un trou subit. Pourquoi ? Parce que le monde reconnaît, il sait reconnaître les gens qui pense aux autres. C'est vrai que sœur Emmanuel aussi, c'est fait des choses merveilleuses. Voilà. Et nos qualités, si on s'appuie dessus uniquement, vont nous conduire forcément à l'orgueil. On s'appuie sur soi-même. Et vous vous souvenez que la Bible dit « Malheur à l'homme qui se confie en l'homme ». Alors pendant un temps, ça peut aller, effectivement, de mettre toute sa confiance en soi-même. On est aussi un être humain. Hein. Ce n'est pas seulement la confiance qu'on met dans les autres, mais parfois on la met en soi-même. J'y arriverai, je m'en sortirai, je peux, je sais, je suis fort. Voilà. Malheur à l'homme qui se confie en l'homme. On sait que ça finit toujours mal, soit dans l'orgueil si tout va bien, soit dans la déprime si ça va mal. Donc c'est seulement l'Esprit de Dieu qui a été reçu au moment de la nouvelle naissance, qui est renouvelé dans le baptême de l'Esprit, qui peut nous animer et nous permettre de servir Dieu, non pas selon nos idées à nous, mais selon son cœur. Vous savez que David a toujours été appelé l'homme selon le cœur de Dieu, malgré toutes ses erreurs. Mais il avait quelque chose qui faisait qu'il agissait selon le cœur de Dieu. Et c'est important parce que la Bible dit aussi, c'est Jésus qui dit « La lettre tue, mais l'esprit vivifie ». C'est l'esprit de Dieu qui donne la vie. Avec la lettre, avec tout ce qu'on sait, notre expérience et tout, on peut être très dur. Regardez les pharisiens. Oh, ils savaient bien être durs. Hein. Il faut pas, tu dois pas, etc. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Et c'est cet esprit qui était sur David qui pouvait lui permettre de bien gouverner. Et c'est l'Esprit de Dieu avec lequel nous travaillons qui fera toute la différence. Servir avec nos propres forces, surtout quand on rencontre des difficultés, quand les choses ne vont pas comme on voudrait, moi je le constate, quand on vit sur ses propres forces, ça amène beaucoup de dureté, de jugement de l'autre, de l'amertume, puis en fin de compte beaucoup de découragement. Et on peut d'ailleurs se poser la question quand on sert le Seigneur dans nos familles, au travail, etc., dans l'église, si on commence à ressentir de l'amertume, du jugement sur les autres, etc., il faut se poser la question, quand on est découragé, est-ce que en fait je ne suis pas en train de servir sur mes propres forces? Parce qu'avec nos propres forces, on aboutira toujours là-dessus. L'autre, ah, il m'empêche de travailler, l'autre il est ceci, et l'amertume, et le découragement, et une certaine dureté aussi. Et si on veut être débarrassé de notre dureté naturelle, humaine, on en a tous, je crois qu'il faut vraiment servir Dieu, non pas sur nos propres forces, mais avec son aide, avec son esprit. Vous voyez, je pense que ça fait une grosse différence. Servir avec et dans l'esprit de Dieu nous permet de regarder à celui qui nous a appelés. Là, je rejoins ce qu'on a fait ce week-end. Hein. C'est celui qui nous a appelés, la vocation, là, la transcendance, la flèche du haut. C'était si on regarde à celui qui nous a appelés, on ne va pas servir Dieu de la même manière, on ne va pas y aller à la force du poignet. On répond à un appel, on sait qu'il est fidèle pour nous donner ce dont on aura besoin. C'est ce qu'il fait avec David. L'Esprit de Dieu vient sur David. Donc ça, c'est facile à comprendre. Là où ça se corse un petit peu dans le texte, c'est quand on lit au verset 14, « L'Esprit de l'Éternel s'écarta de Saül ». C'est un peu dur, mais quelque part, on peut comprendre que ça va mal pour lui. Rappelez-vous comment il s'est comporté. Que l'Esprit de Dieu s'éloigne de Saül, ça peut se comprendre parce que malgré tout ce que Dieu avait fait pour lui, pendant des années, rappelez-vous, il l'avait choisi, il l'avait équipé, il a été soutenu par Samuel, il a été suivi et admiré par le peuple. On ne peut pas dire, hein. Il a été plusieurs fois vainqueur de ses ennemis, grâce à Dieu. Et malgré tout ça, il a désobéi, il s'est même élevé un monument. Ça se faisait pas. Hein. Il avait fait des sacrifices à la place de Samuel, qui était parfaitement interdit. Il avait gardé le plus beau bétail, malgré l'interdiction de Dieu. Et surtout, ce qui a été le plus terrible, c'est qu'il s'est justifié. Il n'a jamais voulu reconnaître sa faute. Sauf, une fois que le verdict est tombé, tu es un roi rejeté. Et je déchire le royaume sur toi. Vous savez, quand il a pris le manteau de Samuel et que Samuel est parti, le manteau s'est déchiré. Le royaume est déchiré sur toi. Tout en réclamant d'être honoré devant le peuple. Là, ça ne va pas. Non seulement il désobéit, non seulement il ne reconnaît que quand vraiment il ne peut plus faire autrement, mais il réclame d'être honoré. Donc vous voyez bien quelque chose qui n'allait pas chez lui. Donc on peut comprendre quelque part que l'Esprit de Dieu ne puisse animer un tel homme. Son moi avait pris la place de Dieu. Il s'était placé au-dessus de Dieu. La Bible dit, hein, mais moi j'ai dit. En quelque sorte, c'était ça. Dieu peut toujours dire « moi j'ai dit ». Bon, alors c'est sûr que l'Esprit de Dieu peut difficilement collaborer avec un esprit comme ça. Donc pour nous aussi, posons-nous la question, chaque fois qu'on tombe là-dedans, on attriste l'Esprit de Dieu. Bon, avec la Nouvelle Alliance, les choses sont un peu différentes, mais on attriste l'Esprit de Dieu, même si on dit « oh la Bible ». Vous savez, on entend ça malheureusement dans tous les milieux chrétiens, hein, de toute origine, que ce soit catholique ou protestant, peu importe. « Oh oui, mais il n'y a pas tout dans la Bible. » Et puis, la Bible dit ça, mais bon, on vit à une autre époque, etc. Alors, c'est peut-être vrai pour certains rites de purification ou les sacrifices de l'Ancien Testament, mais attention, attention. Je crois que quand on commence à rentrer là-dedans, quand on commence à abandonner la fidélité à la parole de Dieu, on prend des très, très gros risques. Et Saül a pris ces risques-là. Mais alors là où ça devient vraiment plus dur, c'est comment comprendre cette phrase qui dit, vous avez bien entendu, un mauvais esprit venant de l'Éternel. Ça m'a chiffonné quand même. Un mauvais esprit venant de l'Éternel. Alors, j'ai cherché les éléments de réponse, que c'est pas évident, hein. Dieu est bon, Dieu nous aime. Comment est-ce qu'on peut avoir un mauvais esprit venant de l'Éternel? C'est chaud quand même. Alors, il y a plusieurs éléments de réponse. Premier élément de réponse, c'est quand l'Esprit de Dieu quitte Saül, il laisse le champ libre aux agissements d'un mauvais esprit. C'est quand Jésus raconte, hein, on chasse un mauvais esprit, c'est comme si la maison était propre, bien balayée, et cet esprit plus mauvais cherche à revenir, parce que bon, ça fait de la place. C'est une image que Jésus donne, mais elle est parlante. Et l'Esprit de Dieu s'était retiré de Saül, le champ était libre pour d'autres choses. Et bien sûr, l'ennemi de Dieu cherche à occuper le terrain, c'est la guerre. C'est un élément de réponse. Un autre élément de réponse, c'est que il n'y a pas un Dieu du bien et un Dieu du mal à égalité. Exprimer la chose comme étant un mauvais esprit venant de Dieu, l'auteur voulait montrer que tout vient avec la permission de Dieu. C'est sûr que Dieu n'a pas créé le mal. Le problème, c'est un problème théologique que j'aborderai pas. Je crois que celui qui l'a le mieux approché, c'est M. Blocher. Vous pouvez lire son livre. Mais voilà, c'est quand même très compliqué. Ça fait partie des mystères, hein, de la vie. On ne peut pas nier que le mal existe, en tout cas. Et que Dieu est bon, aussi. Donc, l'auteur voulait montrer que tout vient avec la permission de Dieu et que tous les esprits lui sont soumis. Et c'est pour ça qu'il dit un mauvais esprit venant de Dieu. Si donc ils ont profité de la désobéissance de Saül pour s'installer dans sa vie, c'est que Dieu l'a permis. Satan ne pouvant faire que ce que Dieu l'autorise à faire. Et là, on en a parlé hier, il est hors de question de mettre le Dieu et le diable à la même hauteur. Il ne faut jamais céder à cette tentation. Comme je disais hier, on a souvent envie de faire ça quand on passe une épreuve. On se dit, bah, Dieu n'a rien fait, le mal est quand même arrivé. Voilà, est-ce que Dieu est limité dans sa puissance? Et c'est un réel problème. Hein, c'est un réel problème quand on voit quelque chose qui ne va pas. Est-ce que Dieu est limité en sa puissance? Non. Alors comment ça se fait qu'il ne fait rien? Il y a des choses auxquelles on n'a pas de réponse. On n'a pas réponse à tout, sinon on serait Dieu, je pense. Donc, il n'y a pas un Dieu du bien, un Dieu du mal qui sont à égalité, ça c'est une chose. La deuxième chose, tout se fait avec la permission de Dieu. Et je pense que cette phrase, c'est là où elle veut en venir. Ça peut aussi être une manière un peu populaire de s'exprimer. Un peu comme on dit, le soleil se couche. Vous savez très bien que ce n'est pas le soleil qui se couche, mais vous continuez à le dire, j'imagine, comme moi. Et vous savez que ce n'est pas vrai, c'est une ânerie complète, mais on le dit. Parce que c'est ce qu'on appelle le langage des apparences. Et dire un mauvais esprit venant de l'Éternel, pour moi, ça fait un peu partie de ça. C'est le langage des apparences. Puisque Dieu l'a permis. Bah. Enfin, mauvais n'a pas le sens éthique qu'on pourrait lui donner, mais il se rapporte aux effets de cet esprit. Comme on peut parler d'une mauvaise blessure. Ça peut aussi être une solution. C'est que l'effet de cet esprit est extrêmement mauvais. Mais bon, ça n'a pas forcément le sens éthique de mal. C'est une possibilité. Enfin, il est clair que le péché, la désobéissance et surtout l'arrogance de Saül n'ont pu qu'entraîner dans son cœur une mauvaise conscience, une tristesse, une peur. Moi, quand je lis le texte, j'ai l'impression d'une sorte de vertige, parce que vous allez voir la pente qu'il va prendre. C'est un toboggan, hein. Une sorte de vertige. Il a ouvert une porte à n'importe quoi, à cause de sa mauvaise conscience, cette peur et cette arrogance surtout, pour tenir jusqu'au bout. D'accord, j'ai péché, mais honore-moi. Et je ne peux pas m'empêcher de penser à Judas. Pierre a renié Jésus, mais quand il a croisé le regard de Jésus dans le prétoire, il s'est mis à pleurer. Pourtant, ce n'était pas une mauviette, Pierre. Hein, c'est une grande bouche, c'est un pêcheur de poissons, solide, fort. Mais quand il a croisé le regard de Jésus, il a craqué. Craqué parce qu'il était conscient. Je l'ai renié. C'est horrible, c'est mon ami. C'est horrible ce que j'ai fait. Et il vivait vraiment une repentance. Il n'avait qu'une chose en tête, demander pardon à Jésus, si c'était encore possible. Il pleurait sur son péché. Tandis que Judas, ah mais Judas, il a regretté aussi, vous allez me dire. Il a même jeté l'argent par terre. Il n'était pas fier de lui quand il a vu Jésus sur la croix. Ah, Judas n'était pas content du tout de ce qu'il avait fait. Il y en a qui pensent qu'il était content, mais non, mais non, mais non. Il était écœuré de ce qu'il avait fait, il était écœuré de lui. Seulement Judas, eh bien, il a fait comme Saül. Il est resté sous la culpabilité. Et la culpabilité, vous savez ce que c'est ? Ça ronge, ça détruit. Ça détruit les pensées, ça détruit l'estomac, ça détruit plein de choses dans la vie. Ça crée des oppressions respiratoires. Enfin, hein, médicalement, vous pouvez faire toute la liste. La culpabilité, ça tue. Et il a fini par être tellement déprimé, Judas, qu'il s'est suicidé. D'ailleurs, on verra que Saül finira malheureusement comme ça aussi. Donc on a le choix, et ce choix entre Saül et David, on le voit, David qui demande pardon, et puis Saül qui regrette, qui est sous une culpabilité écrasante, du coup qui est dans une tristesse, une agitation terrible. Mais moi je ne comprends pas quand même. Pourquoi il a tenu bon comme ça alors que c'était en train de lui bouffer la vie, à tel point que ses serviteurs l'ont vu? Il était fragilisé par la défection de Samuel. Il était mis en danger par l'hostilité constante des Philistins et sans doute ce sentiment de culpabilité qui va continuer à l'oppresser. Et là, on comprend que c'était vraiment un mauvais esprit qui l'agitait. Quand on a tout ça sur le dos, on doit commencer psychiatriquement à avoir de sacrés problèmes. Alors, pourquoi Dieu a-t-il agi ainsi? Moi, je suis un petit peu étonnée parce qu'on pourrait penser que Dieu dit « Bon, allez, je le rejette et je le fous droit ». Ou bien je le fais destituer immédiatement. Mais non, moi je trouve que là encore, on va voir la grâce de Dieu. Il va encore tout faire. Alors, plus pour le roi, puisqu'il l'a rejeté comme roi, mais pour le bonhomme. Tous ses troubles étaient là pour le pousser à demander l'aide de Dieu. De la même façon que quand Pierre a craqué, ce qui est né dans son cœur, c'est oh, « il faut que Jésus me pardonne, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je me repente ». Pourtant, c'est marrant, Saül ne bouge pas. C'est ses serviteurs qui commencent à bouger. Ils viennent à la rescousse avec un diagnostic impeccable. Hein, un mauvais esprit venant de Dieu t'agite. Ça ne va pas être facile à dire à quelqu'un. Vous voyez, aller dire à quelqu'un qui ne va pas bien, un mauvais esprit venant de Dieu t'agite. Bon, ce sera un petit peu difficile. Hein. Leur diagnostic est complètement objectif. Un esprit mauvais t'agite. Autrement dit, Dieu va permettre qu'un esprit mauvais tourmente Saül. Mais je vous dis, il n'y a rien de magique là-dedans. Hein, si vous ajoutez la culpabilité à la désobéissance, à l'arrogance, à l'auto-justification, vous voyez un peu tout ce qu'il a accumulé, le petit bonhomme, c'était énorme. Il y avait de quoi être agité. Et ils lui disent que notre Seigneur parle. Autrement dit, ça c'est une formule, ça veut dire mais dis quelque chose. Mais qu'est-ce que tu veux ? Qui veux-tu voir? Mais dis-nous, on est là pour t'aider, pour te servir, pour te soulager. Quand on lit comme ça dans la Bible, ça ne parle pas. Mais en fait, en français courant, ce serait ça, hein, que notre Seigneur parle. Mais dis quelque chose, quoi. Tu restes comme ça, là, sous ton oppression et tu dis rien. Ils n'étaient pas bêtes, ces serviteurs. Saül avait encore une occasion de craquer, de demander pardon à Dieu, en tant qu'homme, peut-être plus en tant que roi, chercher son conseil. Mais il savait très bien prier et jeûner, il avait fait jeûner toute son armée il n'y a pas longtemps. Il savait quoi faire. Il y avait même d'autres prophètes que Samuel, on le voit, il aurait pu s'adresser à quelqu'un d'autre. Et si leur diagnostic est juste, ils avaient raison, là où je coince, c'est leur conseil. Le conseil qu'ils auraient dû donner, c'est écoute, va supplier Dieu de te pardonner. Allez. Mais leur diagnostic est juste, leur remède est douteux. Écoute, on va trouver un joueur de harpe, et quand il va jouer, ça va te soulager. Chaque fois que tu seras tourmenté par cet esprit, eh ben, ça va te soulager, la musique. Alors, j'ai lu que depuis l'Antiquité, la musique a été utilisée pour apaiser, détendre, calmer. On dit que la musique adoucit les mœurs. On a tous entendu ça. Hein. La musique adoucit les mœurs. Oui. Alors, il y a différents styles de musique, mais en général, c'est vrai qu'on peut l'utiliser pour ça. Merci. Pour se calmer, se détendre. Et c'est Florence, je crois, qui m'a raconté que c'est dans un pays scandinave. Ils ont mis de la musique classique dans ses toits. De la musique classique sur les quais de gare où il y a eu beaucoup de criminalité. De délinquance, oui. Et ça a marché. Parce que les voyous ne supportaient pas la musique classique. Intéressant. Mais intéressant, il y a quand même quelque chose derrière. Hein. Voilà, la musique adoucit les mœurs. J'ai remarqué d'ailleurs que dans certains magasins ou certains restaurants, ils font ça, je ne sais pas si c'est pour la même raison. Ça élimine une certaine clientèle. Mais c'est vrai qu'on utilise beaucoup la musique pour ça. Et là, je ferai une petite digression. L'harmonie des sons est une création de Dieu. Et au XVIIe siècle, on parlait beaucoup de ça. Dans mes études d'anglais, je me suis spécialisée au XVIIe siècle, et c'était vraiment l'harmonie des sons, c'était quelque chose. Il parlait même de l'harmonie des sphères, etc. Enfin, il y avait tout un tas de trucs, c'est un peu compliqué. Mais l'harmonie. Dieu est un créateur d'harmonie. Et c'est vrai, entre les hommes, l'harmonie, entre les humains, l'harmonie musicale. Et ça a un effet bénéfique sur l'être humain. Et d'ailleurs, le Nouvel Âge s'en sert énormément. Si vous allez à la FNAC, vous regardez un petit peu les musiques apaisantes, la plupart, c'est des musiques New Age. Mais ils savent, ils ont compris ça. Et on peut du coup, je ne peux pas m'empêcher de parler de ça, parce que c'est quelque chose qui m'a interpellée ces derniers temps, on peut se poser des questions sur les dissonances quand elles sont utilisées dans des chants chrétiens. Alors, ce n'est pas de moi, parce que moi, je ne suis pas suffisamment musicienne. C'est les Gaver qui expliquaient ça, parce qu'ils sont professionnels. Lui était professeur de musique pendant des années. Et lisez, les dissonances dans un chant sont utilisées pour exprimer la souffrance, le péché, la mort. Et c'est normal. Une dissonance, c'est quelque chose qui vous... Hein, je pense que vous voyez ce que je veux dire par dissonance, même ceux qui ne sont pas musiciens. Le piano n'est pas branché. Sinon, tu peux me faire 2-3 dissonances. Vous allez voir, ça heurte. Et même moi qui ne suis pas du tout musicienne, ça... Oh, entendre des sons dissonants. D'ailleurs, le professeur de violon de Florence m'avait expliqué que pour le son qu'ils utilisent pour fermer les portes de métro, c'est une dissonance. Parce qu'il faut que ça secoue les gens. Ça, c'est pas moi, hein, c'est un professeur de violon qui a expliqué ça. Tu te rappelles, Florence ? Il l'avait reproduit. Quoi ça sert quand les profs disent quelque chose ? Moi, je l'ai retenu. Je suis scolaire. Alors, une dissonance, enfin, une harmonie d'abord. Et maintenant, des dissonances. Tu essaies d'inventer quelque chose d'horrible, c'est pas évident. Donc, voyez l'effet que ça produit, une dissonance. Et moi, je suis très inquiète quand j'entends des dissonances dans des chants qui sont supposés être à la gloire de Dieu, chanter ses louanges, sa grandeur et surtout son amour. Il y a quelque chose qui ne va pas. il y a quelque chose qui ne va pas. Je laisse ça à votre réflexion, mais je pense que c'est un souci, parce que Dieu est un Dieu d'harmonie. Et l'harmonie a un effet bénéfique sur toute la création, nous y compris. C'est un sujet de réflexion. Le problème ici, c'est que la solution proposée par les serviteurs, eh bien, c'est pas la bonne. Ils sont choux. Ils font tout ce qu'ils peuvent. Mais c'est pas la bonne solution. Ils proposent de la musique. Alors que vous savez de quoi a besoin Saül ? Il a besoin d'humilité. Il a besoin de demander pardon. Il a besoin de s'examiner un peu soi-même. Il propose à Saül de bénéficier de l'onction spirituelle de quelqu'un d'autre. Alors qu'il a besoin, tout bêtement, de ce que le TQP appelle les 4 R pour simplifier les choses. Avoir la révélation de ses bêtises. Se repentir, c'est-à-dire demander pardon à Dieu. Renoncer à continuer sa vie comme ça. Et puis accepter que Dieu le restaure. Et les choses n'étaient pas encore perdues à ce point-là. Peut-être perdu au niveau royauté, mais pas en tant que bonhomme, en tant qu'homme. Il propose à Saül de bénéficier de la présence de quelqu'un qui a l'harmonie avec Dieu, qui a la communion avec Dieu. Le jeune serviteur, visiblement, il connaissait bien David, peut-être il était de Bethléem, et il le présente comme ça. C'est pas mal, hein, par rapport à même tout ce qu'on a dit la semaine dernière. Il sait jouer, il sait bien jouer, c'est un vaillant héros. C'est un guerrier. Je ne sais pas s'il avait vu se battre, mais j'imaginais qu'il y avait des voleurs de troupeaux. Les Philistins étaient spécialistes dans le vol des bêtes et des récoltes. Donc il avait déjà dû s'en prendre aux voleurs de bêtes et leur administrer une bonne correction. Donc il y a un vaillant héros, un guerrier. En plus, il parle bien. C'est un bel homme, il tient debout. Hein. Et ça m'a plu, c'est la dernière phrase. L'Éternel est avec lui. Donc, il va gagner l'affection de Saül, il va même devenir son porteur d'armes, c'est, vous savez, le serviteur qui marchait à côté des généraux, à côté des officiers, etc., qui portait ses armes. L'Éternel est avec lui. Et il y a plusieurs points à relever là. Saül ne sait pas que celui qu'on lui a recommandé, c'est le nouveau roi choisi par Dieu. Ça fait bizarre, hein ? Mais alors on va dire, voilà, tu vois, il y a 2 interprétations possibles, et il y en a une qui est mauvaise, à mon avis, c'est, voilà, il est là pour le pousser dehors. Non. Le roi choisi est là pour préserver le roi, pour l'apaiser, pour lui proposer une solution. Et je suis sûre que ce n'était pas une menace, mais c'était pour Saül un dernier moyen de grâce. Dieu a posé à côté de lui quelqu'un qui avait l'Esprit de Dieu, et il avait une occasion en or d'ouvrir son cœur et de lui dire, tu sais mon petit, j'ai gaffé sur toute la ligne, je voudrais m'en sortir. Ben non, il a profité de son onction, il a profité de sa présence, il a profité de sa musique, mais il ne s'est jamais remis en question. Ce n'est pas un hasard. Cette expérience va contribuer d'un côté à préparer David à la royauté. Mais aussi, c'est une perche qui a été tendue à Saül, qui dans ses moments d'apaisement, pouvait retrouver une certaine lucidité pour demander pardon à Dieu. Tout bêtement. Dans ces moments de lucidité où il n'était pas complètement bousillé par sa culpabilité et sa honte et sa colère et son amertume, etc. Il avait des moments de lucidité pendant la musique. Il avait une occasion en or de revenir vers Dieu. Voyez la bonté de Dieu avec toutes les bêtises qu'avait accumulées Saül. Encore une fois, il lui tendait la perche en lui envoyant quelqu'un qui pouvait l'aider. Quelqu'un qui était humble, qui était prêt à tout faire pour le roi. Il était fidèle, David. Et on le voit plus tard, hein. Quand il peut tuer Saül, il ne le fait pas, il ne touche pas, malgré toutes les vacheries qu'il lui a fait. On va voir ça plus tard. Et là, je n'ai pas pu m'empêcher de réfléchir au fait de fréquenter quelqu'un qui a sur lui l'Esprit de Dieu, où on peut dire l'Éternel est avec lui. C'est une occasion en or de se rapprocher de Dieu. Toutefois, autant il est bon de fréquenter des gens qui spirituellement, c'est marrant, André l'a utilisé tout à l'heure, nous tirent vers le haut et nous sortent de notre déprime ou de notre culpabilité, etc. Autant ça ne remplacera jamais ces fameux 4 R, repentance, renoncement, restauration. Ça ne remplacera pas. Et là, on le voit avec Saül. Le rétablissement de notre relation avec Dieu, c'est ça qui est important. C'est pas avoir quelque chose qui nous apaise et qui nous soulage. Au verset 23, on lit que le mauvais esprit s'écartait de Saül quand David jouait. C'était la main tendue de Dieu. Il n'en a pas profité. Il a simplement profité de se sentir mieux. David, lui, avait reçu l'onction de Dieu. L'esprit de Dieu était sur lui. Il était tout à fait en mesure d'aider Saül. Surtout quand Samuel était parti. Mais il n'a pu apporter qu'une aide ponctuelle et limitée parce que Saül n'a pas saisi cette occasion de revenir vers Dieu. Alors qu'il savait très bien que l'Éternel était avec David, on lui avait dit. Attention alors, je dirais, à Saül et ses amis. Nos Saül et nos amis, ou quand on est comme Saül. Attention, la tendance naturelle d'un être humain, c'est de rechercher des solutions faciles. Et personne, enfin on est tous pareils dans ce domaine. On ne va pas chercher la solution la plus compliquée, bien que parfois André, je trouve que... Mais les gens en général cherchent la solution facile. Je dis souvent, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? Non, je suis méchante. Mais on cherche des solutions faciles qui apaisent. C'est vrai quand ils cherchent un stationnement. Les solutions qui apaisent, qui réconfortent, mais qui n'attaquent pas la racine du problème. Si vous avez besoin de pardonner à quelqu'un, ou de demander pardon à Dieu ou à quelqu'un, écouter de la musique va probablement vous soulager. Vous rapprocher de quelqu'un qui vit en bonne communion avec Dieu, ça va vous faire du bien. Rechercher des gens qui ont vraiment l'Esprit de Dieu sur leur vie, ça va vous aider, mais ça n'arrachera jamais la racine du mal. Et il faut faire attention surtout à notre époque où on a la musique facilement, on n'a pas besoin de faire venir un musicien. Faire attention à ça. On ne remplace pas les choses fondamentales par ce que j'appellerais des succès d'années. Depuis des siècles, les religions chrétiennes ont cherché à bénéficier de la présence de Dieu. L'Esprit de Dieu qui animait des hommes comme David, on les appelait des saints, hein, ces hommes, et on cherchait à bénéficier de ce qu'ils avaient vécu. Et du coup, on a multiplié les pèlerinages sur leurs tombes. Les orthodoxes sont très très forts là-dessus, je les ai entendus expliquer lors d'un rassemblement œcuménique. Parce qu'on espère récupérer quelque chose de magique qu'il y avait sur eux. Alors on garde leurs reliques aussi, ça je trouve ça horrible, des petits morceaux d'os et tout. Et j'ai appris récemment en faisant une visite avec l'école Notre-Dame qu'un autel d'une église catholique ne peut être valable que s'il y a des reliques à l'intérieur. Et le prêtre m'a découvert la nappe de l'autel pour me montrer les reliques. Ça s'appelle un hôtel actif, merci. Donc, ne critiquons pas ces choses-là, on n'est pas là pour juger, mais ça montre simplement la tendance naturelle de l'être humain. Rechercher des choses matérielles, faciles d'accès, et qui ne nous obligent pas à demander pardon à Dieu, qui apportent un certain soulagement. Et on espère attribuer... On espère recevoir au travers de ces choses quelque chose, une onction. Les hommes ont simplement suivi fidèlement, ces hommes dont on met les petits os là, etc. Ils ont simplement suivi fidèlement le Seigneur. Je pense qu'à Saint-Martin, dont on habite dans le village de Saint-Martin, du coup on connaît un petit peu la vie de cet homme de Dieu. Ils ont fidèlement suivi leur Seigneur. Dieu, j'ai bien dit Dieu, a accompli des signes et des miracles qui ont accompagné leur ministère. Mais l'Esprit de Dieu qui les accompagnait, c'est pas un truc qu'on chope, qu'on attrape. C'est pas un baume qui va nous soulager comme la musique de David. Et je vous invite à relire les premiers chapitres des Actes. Cet Esprit de Dieu, il nous est promis à chacun. C'est là que je voulais en venir. Vous vous souvenez de la Pentecôte ? C'est pour ça, relisez les premiers chapitres des Actes. Ce Saint-Esprit, cette troisième personne de la Trinité, vient habiter dans nos vies, à nous. aussi bête, aussi petit, aussi limité qu'on est, ou que vous croyez être. Il vient habiter dans nos vies. Si on lui accorde toute la place, avec la même humilité que David, on n'aura pas besoin d'un intermédiaire pour profiter de ce qu'il a, de son onction. Vous voyez ce que je veux dire ? On n'a pas besoin. Il n'y a qu'un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Et souvent, on a tendance à dire, ah ben oui, les orthodoxes ou les catholiques, mais on n'est pas à l'abri parce que c'est la tendance humaine naturelle de chercher quelqu'un de plus proche, de quelqu'un qui on voit avec nos yeux, qu'on peut toucher. C'est normal, c'est la nature humaine. Mais ce n'est pas ce que dit la parole de Dieu. L'Esprit, le Consolateur, nous a été envoyé à chacun. C'est un esprit de force, d'amour, de puissance. Et si on lui laisse la place dans nos vies, on vivra comme David, même peut-être mieux, j'espère. Parce qu'on a, justement le Saint-Esprit qui nous aide à vivre. Mais ne cherchons pas des intermédiaires. Et j'avais bien aimé cette formule qui n'est pas de moi, mais j'aurais bien aimé qu'elle le soit, de vivre sur la carte de crédit de quelqu'un. Non. On ne vit pas sur la carte de crédit de quelqu'un quand on est chrétien. On a notre carte de crédit. On a notre compte en banque avec le Seigneur. On a notre relation avec le Seigneur, à condition qu'on ne fasse pas comme ça. Et que chaque fois qu'on sait qu'on a gaffé, on a péché, on a fauté, vous l'appelez comme vous voulez, on demande pardon à Dieu. On met les choses en règle avec lui. Ça fait mal, mais ça fait du bien après. Oh, ma cousine, j'ai mangé avec ma cousine cette semaine. Elle me racontait que ses parents gardaient la maison, une grande maison, c'était bref, dans les années 50, d'un médecin. Elle détestait ce médecin parce que par gentillesse, c'est lui qui leur faisait les vaccins quand ils passaient. Voilà, c'était donc son grand-père qui gardait la maison. Elle dit, ah, vos petites filles, bah, allez hop, je vais les vacciner. Donc elle détestait ce médecin parce qu'elle ne voyait que la seringue. Hein. Et elles avaient vu un fusil accroché au mur dans la maison du médecin. Elle dit, un jour on prendra ce fusil et on le tuera. C'est joli. Hein. Ben oui, quand on voit que la douleur, on ne voit pas la guérison derrière, la protection que ça peut représenter. Et c'est vrai que demander pardon à Dieu, demander pardon aux gens, s'examiner soi-même, regarder tout ce qu'on a fait de travers, c'est sacrément déprimant. Puis on n'a pas un qui est meilleur que l'autre là-dedans. Hein. Rassurez-vous, on est tous pareils. Ouh ! Mais c'est la clé. C'est la clé. C'est pas l'esprit qui repose sur mon voisin ou sur l'un ou l'autre. Non, c'est la clé, c'est ma relation avec Dieu. Et le Saint-Esprit, il nous a été offert à la Pentecôte. Relisez ce passage. Et on n'aura pas besoin d'un intermédiaire pour profiter de la présence de Dieu. Mais laissons-lui la place. Mettons-nous en règle avec Dieu. Permettons avec humilité à son esprit de nous transformer, de nous habiter déjà, de nous transformer, de nous revêtir. Et réjouissons-nous, bien sûr, avec les frères et sœurs, peut-être qui sont plus avancés que nous, qui ont vraiment la présence de Dieu dans toute leur vie, etc. Mais ne comptons pas sur eux pour nous apaiser. Comptons directement sur Dieu. Il n'y a qu'un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Et comptons sur Jésus-Christ pour nous changer, nous transformer, nous pardonner, heureusement il le fait, et nous guérir. Nos frères et sœurs nous aident, les hommes de Dieu qu'on rencontre, ça nous aide. Mais comptons sur le Seigneur. Le vrai changement, il viendra de notre relation avec Dieu. Et si Saül avait pu comprendre ça, je pense que les choses auraient beaucoup changé. En tout cas, il n'aurait pas passé son temps à persécuter David, comme on va le voir après.